Bonjour, mon nom est Michel Pion, vice-président de l'Association humaniste du Québec, et bienvenue au balado humaniste. Un des buts avoués de l'Association humaniste du Québec est la diffusion des valeurs humanistes et de la pensée critique. Et en ce qui concerne la pensée critique, notre invité en connaît un bout. Il s'agit du président des sceptiques du Québec, M. Michel Bellé. Michel est biochimiste et chimiste. Il a travaillé 26 ans en recherche pharmaceutique, en chimie médicinale, pour développer de nouveaux médicaments. Il a participé, entre autres, à la découverte du singulaire pour l'asthme. Retraité depuis 2013, il a obtenu une mineure en sciences des religions en 2018. Il a été vice-président des sceptiques du Québec de 2015 à 2020 et est maintenant le président depuis 2020. Il est aussi rédacteur en chef de la revue Québec sceptique depuis 2020 également. Les sceptiques du Québec est un organisme sans but lucratif fondé en 1987. Son principal objectif est de promouvoir la pensée critique et la rigueur scientifique dans le cadre de l'étude d'allégations de nature pseudo-scientifique, religieuse, ésotérique ou paranormale. La corporation compte maintenant près de 400 membres et abonnés à travers le Québec, dont une quarantaine de membres actifs qui sont tous des bénévoles. Alors, bonjour Michel, et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Michel, et merci de m'avoir invité.
D'accord, alors pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les sceptiques du Québec, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette organisation, quels sont ses buts et quelles sont ses activités?
Au niveau des buts, ben, comme tu l'as mentionné, c'est encourager l'esprit critique, aider les gens à développer leur esprit critique. Et on fait ça justement par l'organisation des conférences. On a une conférence par mois et on fait ça aussi par la publication d'une revue, le Québec sceptique, qui est publiée aussi 3 fois par année. On a aussi un site web sur lequel il y a beaucoup d'articles différents qui sont publiés, qui ont été publiés par le passé. On a un dictionnaire sceptique, entre autres, où il y a plusieurs termes justement qui sont bien définis avec des articles sur chacun des termes. Et on a aussi le Quackwatch, qui est un site qui a été traduit de l'anglais et qui parle des différentes médecines alternatives, critique des différentes médecines alternatives. On a aussi le forum sceptique. C'est les gens qui veulent discuter entre eux autres, ils peuvent s'inscrire au forum et il y a différents types de discussions qui ont lieu. Alors, les gens peuvent échanger s'ils ont des questions sur le scepticisme. C'est la bonne place pour aller voir aussi. Puis, on a aussi notre page Facebook, accessible à tous, sur laquelle on met quelques articles ici et là qui sont intéressants pour les gens qui sont sceptiques, si on veut.
D'accord. L'Association des sceptiques du Québec existe depuis 1987. Est-ce que les préoccupations des membres de l'association ont changé depuis la création des sceptiques?
Oui. Si on regarde un peu en 87, quand ça a été fondé, on parlait surtout du paranormal puis de l'ésotérisme. Autrement dit, il y avait une critique, si on veut, de la télépathie, des voyances, de l'astrologie. Bon, il y avait aussi les médecines alternatives, comme encore aujourd'hui. Mais au fil du temps, ben la pensée sceptique s'est peut-être un peu élargie en ce sens que on s'est mis à analyser un peu plus les différentes croyances, comme au niveau des croyances religieuses, les fake news aussi qui ont apparu de plus en plus avec le temps, fait qu'on s'est mis à analyser ça aussi. Puis aujourd'hui, ben on va même un peu plus loin dans le sens qu'on va même jusqu'à analyser certaines idéologies qui sont de plus en plus populaires. Et ces idéologies-là ont un peu remplacé les religions. Si on pense, par exemple, au wokisme, au mouvement woke, c'est quasiment une religion, sauf qu'il n'y a pas de paranormal puis il n'y a pas d'ésotérisme. Les gens embarquent tellement là-dedans qu'à un moment donné, ben ça prend pas mauvais d'avoir un point de vue différent et d'en discuter un petit peu plus.
D'accord. Quand on est sceptique, quelle approche devrions-nous adopter? Est-ce que c'est possible d'être peut-être trop sceptique? Je pense, par exemple, parce qu'on a vécu, comme un peu tout le monde récemment, avec toute la mouvance anti-vaccin. Ces gens-là se disent sceptiques, mais le sont-ils vraiment? Peut-être qu'ils le sont de mauvaise façon, disons. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, ce que j'en pense, c'est assez simple, c'est que le scepticisme qu'on pratique dans l'association est basé autant que possible sur les données scientifiques, sur les faits et les données scientifiques et le consensus scientifique. Quand on parle, par exemple, des climato-négationnistes ou climato-sceptiques et des vaccines sceptiques, ben là, ça, c'est un scepticisme un peu plus, je dirais, un peu plus extrême En ce sens que même les données scientifiques sont remises de côté pour ces groupes-là. Ça va même jusqu'au conspirationnisme. Ça fait qu'on pourrait parler quasiment d'un scepticisme intégriste dans ces cas-là, où c'est que tout ce que les journalistes peuvent publier, tout ce que les scientifiques peuvent publier est même mis de côté dans une espèce de scepticisme intégral. Et c'est pas du tout ce que nous autres on recommande, parce qu'on reste basé sur les données scientifiques solides.
D'accord.
Autant que possible.
Autant que possible, oui. On entend souvent parler de nouvelles thérapies ou de certains produits alternatifs. Là, tu en parlais un petit peu, tu faisais un petit peu allusion tantôt. Souvent, ces publicités-là utilisent un langage qui utilise des termes scientifiques pour expliquer leur fonctionnement. Pour une personne qui n'est pas informée sur la science en général, comment on fait pour évaluer la validité de ces affirmations? En bref, comment qu'on distingue la science de la pseudo-science?
C'est une très bonne question et c'est quelque chose qui serait assez difficile à faire pour le commun des mortels, je dirais. Peut-être qu'un truc, ce serait que si les gens utilisent des termes de physique pour essayer d'expliquer quelque chose dans une médecine alternative, vous pouvez être à peu près sûr qu'il est en train d'essayer de vous passer un sapin. Si on parle de physique quantique ou d'atomes ou de n'importe quoi, quand ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Fait que ça peut être un des trucs. Si on parle par exemple d'énergie ou quoi que ce soit, ça c'est une autre affaire que l'énergie c'est un principe physique, mais si on commence à en parler en médecine, c'est une autre indication que c'est des médecines alternatives basées sur pas grand-chose. C'est le problème des médecines alternatives, c'est pas différenciable de l'effet placebo. Et ça fonctionne par effet placebo jusqu'à preuve du contraire. Souvent dans les médecines alternatives ou dans les espèces de traitements quasiment miracles, c'est bon, c'est recommandé pour un paquet de maladies une après l'autre. Bon, moi, ça peut être l'eczéma, le mal de dos, un mal de tête, même le cancer et tout pour, avec le même médicament. Fait que si vous voyez une annonce comme ça sur un produit qui serait un médicament miracle, vous êtes sûr que c'est de la foutaise aussi. Parce qu'en médecine et en recherche médicinale, on le voit aussi, un médicament, c'est spécifique à une maladie et ça guérit pas 56 maladies comme les supposées médecines alternatives.
D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'on appelle la méthode scientifique? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'y fier?
La méthode scientifique, d'abord, on commence... Bon, juste, je vais donner peut-être rapidement les étapes. On a des observations, les gens font certaines observations, et après ça, à partir des observations, ils décident on va faire des hypothèses par rapport à ces observations-là, et après ça, on va les tester, ces hypothèses-là. Si on a confirmation ou infirmation, on va tirer certaines conclusions de ça, et on va avancer à partir de ces conclusions-là, faire d'autres hypothèses, ou ça va soulever d'autres questions, et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on puisse améliorer nos connaissances. Mais c'est basé tout le temps sur l'expérimentation, la confirmation ou l'infirmation de ces expériences-là. Le problème, c'est que dans les autres domaines, les autres façons d'essayer d'apprendre des choses ou de connaître des choses, souvent on reste au niveau des hypothèses et on confirme pas ou on fait pas d'expérimentation pour infirmer ou confirmer ces hypothèses-là. Ça, c'est un problème général. Et l'autre chose aussi, si on regarde ce que la science nous a donné à date, toute la technologie qu'on a développée jusqu'à date, c'est relié justement à la méthode scientifique. Et si on n'avait pas cette méthode scientifique-là, toute notre technologie qu'on est en train de faire présentement, on est en train de parler des micros, puis on est en train d'enregistrer des choses, ça pourrait pas se faire si on n'avait pas la méthode scientifique.
D'accord. Pour reprendre un exemple courant, là, mettons que moi je suis un croyant, je crois aux extraterrestres et aux ovnis et à un dieu créateur et ainsi de suite. Et je discute avec un sceptique et je lui dis, écoute, prouve-moi que j'ai tort. Un sceptique répondrait quoi à ça?
C'est difficile de prouver une chose, c'est à peu près impossible de prouver qu'une chose n'existe pas. Les sciences, justement, se limitent aux choses qu'on peut démontrer. On a ce qu'on appelle le principe de réfutabilité de Popper. Si on a quelqu'un qui fait une affirmation quelconque, si on est capable de la démontrer ou d'infirmer cette affirmation-là, ça reste une information qui est scientifique, si on veut. Mais si on n'est pas capable de rien faire pour la prouver ou l'infirmer, ça sort du domaine de la science. C'est un peu le problème avec des concepts comme Dieu, puis les ovnis ou les extraterrestres. Maintenant, les extraterrestres, par exemple, si quelqu'un arrivait avec des belles photos, des bons enregistrements qui montraient qu'il y a des extraterrestres, ce serait quelque chose qui pourrait montrer vraiment qu'ils sont là. Mais le problème avec les extraterrestres, c'est un peu c'est un gros problème actuellement, parce qu'on a eu une conférence là-dessus récemment, si on veut. Si on pense, par exemple, on a beaucoup de gens qui se promènent avec des cellulaires aujourd'hui. Fait que c'est facile d'avoir des photos très, très détaillées d'événements qui sont très rares. Comme par exemple, un crash d'avion, tu t'aperçois que, oups, un avion est en train de se crasher ou quoi que ce soit, il y a quelqu'un à côté qui l'a filmé. Puis les extraterrestres, ben ça fait quand même 50-60 ans qu'on en parle, puis on a encore juste des photos floues, puis on n'a pas d'enregistrement vidéo qui vaut plus qu'un petit écran radar avec une petite affaire tic-tac, là, puis c'est tout, là, puis il y a rien, rien. Ça démontre une chose, c'est que si on a une technologie qui s'améliore énormément pour capter des événements rares, puis qu'on n'est pas capable de les capter ou d'en capter plus, c'est signe que ces événements-là sont probablement inexistants.
Je sais que les sceptiques du Québec ont déjà eu une offre de 10 000 $ pour quiconque pourrait démontrer un pouvoir surnaturel quelconque. Je suis juste curieux de savoir que quelqu'un a déjà réclamé le prix.
Oui, il y a eu des tests qui ont été faits par le passé. Même que le montant avait monté à 750 000 $ à un moment donné. Bon, il y a des gens qui ont appliqué. Souvent, dans les pré-tests, ça marchait pas. Ou quand ils regardaient le protocole qui était trop rigoureux pour eux autres, il y en a beaucoup qui s'en allaient et qui laissaient tomber. Puis il y a eu quelques cas où il y a eu des tests un peu plus poussés. Comme par exemple, je me rappelle d'un cas où tu sais qu'il y avait une espèce de guérisseur qui pensait qu'il était capable d'allonger les jambes. Il y a des gens, des fois, qui ont des jambes qui n'ont pas la même longueur, et lui, par des manipulations, il pensait qu'il était capable d'allonger la jambe d'une personne, puis ils ont fait des tests avec des marques qu'ils ont mis sur les jambes, puis ils ont mesuré les jambes avant et après. Ils se sont rendus compte que ça faisait absolument rien. Fait que, il y a eu d'autres tests similaires à ça qui ont été faits, là.
Je sais que, aux États-Unis, t'es probablement familier avec ça, là, il y a la James Randi Foundation aussi, qui avait, eux, un prix de 1 million de dollars. Je sais que, bon, James Randi est décédé, par contre, pas tellement longtemps. Je sais que, de son côté aussi, il y a eu plusieurs challenges, si on veut, sur le... Est-ce que tu es au courant si le prix toujours à faire?
Non, le prix, ce concours-là a été fermé. Donc, il n'y a pas eu vraiment, à date, de demande sérieuse ou de preuve, si on veut, pour que le prix soit donné à quelqu'un. Avec les années, ben il y a une espèce de désintérêt général qui se fait aussi. C'est toujours à peu près la même chose. Comme par exemple, un autre exemple aussi, c'est la télépathie. Il y a des gens qui pensent qu'ils étaient télépathes. En fait, transmettre des pensées à distance. Et tous ces tests-là, ça n'a jamais rien donné. Ou à peu près rien.
Je suis curieux aussi, est-ce que vous avez eu déjà des voyants qui se sont présentés pour le prix?
Par rapport justement au défi sceptique, on parlait un peu de la voyance. On a eu plusieurs tests, on a eu plusieurs voyants qui ont été testés aussi au fil des années. Ben, je dis plusieurs, peut-être quelques-uns. Puis une des questions, par exemple, qu'on pouvait lui demander, c'est prendre un échantillon de personnes, puis lui demander, OK, ces 8 personnes-là, vous allez nous dire combien ils ont eu d'enfants ou combien ils ont de frères et sœurs. Et c'est des tests qui sont quand même assez simples à faire et n'importe qui pourrait faire. Et le taux de succès était vraiment, vraiment, vraiment mauvais. C'était très, très proche des résultats qu'il aurait pu obtenir par hasard. Et il y a même un cas où c'est qu'une voyante ou un voyant, je sais pas, 6 réponses sur les 8 que cette personne-là avait données, c'était 0. Comme si la personne n'avait pas de frères et sœurs ou... quoi que ce soit. Fait que en donnant un 0, il y avait peut-être un peu plus de chances d'avoir raison, mais ça n'a pas été un succès pantoute pour ce test-là. Seulement 3 bons succès, 3 bonnes réponses sur 8.
Est-ce que tu sais quelle explication ils ont donné pour leur manque de précision?
Non, pas du tout. Ça a été fait, ça fait quand même assez longtemps. Ça a été fait en 2003, puis un autre test similaire qui avait été fait en 1995. Par exemple, sur l'astrologie, il y avait un test pour reconnaître son portrait astrologique sur 7 choix, et ça avait été minable comme résultat aussi. Maintenant, on avait un concours de prédiction. Et dans notre concours de prédiction, on avait des sceptiques qui faisaient des prédictions, Et on avait des prédictions qui étaient aléatoires aussi, générées par ordinateur. Et en même temps, on avait quelqu'un qui prenait les prédictions faites par des astrologues ou des chiromanciens ou n'importe quoi. Puis à la fin de l'année, ben on vérifiait tout qu'est-ce qui s'était réalisé ou qu'est-ce qui s'était pas réalisé. Et le taux de succès de l'ordinateur et le taux de succès des sceptiques était similaire au taux de succès des astrologues. Pas un gros, gros succès. À peu près 30%, dépendamment jusqu'à quel point qu'on étirait ou pas la prédiction, parce que souvent, une prédiction, c'est très, très large. On peut prédire, je sais pas, moi, un événement...
aléatoire, ou je sais pas, là, ou...
Ouais, une inondation qui arriverait dans tel pays, à tel endroit, telle date, ou dans tel mois. Et c'est ça, c'est que des fois, souvent, ce qui peut arriver, c'est que la prédiction peut s'avérer exacte, mais le mois d'après. Peut-être pas exactement dans cette région-là, mais dans une autre région à côté. Mmh. Peut-être pas une grosse inondation, ça peut être une petite inondation.
Parce que comme si on se fie à certains prophètes, en fait, je suis pas au courant, je ne me souviens pas que ça s'est fait par quelqu'un au Québec, mais aux États-Unis, il y a eu plusieurs pasteurs d'églises évangéliques qui ont prédit la fin du monde à telle date, et c'est jamais arrivé, ou ils sortaient avec une explication vraiment impossible.
Oui, ben les explications qui sortent, c'est qu'ils ont prié suffisamment pour que ça soit remis à plus tard. Mais ça fait au moins, en tout cas dans le christianisme, ça fait au moins 2000 ans qu'ils parlent de la fin du monde. Ouais. C'est pas arrivé encore. J'imagine que les gens ont prié beaucoup pour que ça arrive pas. Là.
OK. Tu as mentionné précédemment que les sceptiques avaient des conférences. Je sais pertinemment que les conférences sont le 13 de chaque mois. Mais est-ce que tu peux donner aux gens un petit exemple du genre de sujet que vous couvrez durant vos conférences?
Oui, j'ai justement la liste des conférences de l'avant passé ici. Il y a des conférences qui ont lieu dans des conférences de vulgarisation scientifique. Comme par exemple, on a une conférence sur l'épigénétique. Savoir c'est quoi l'épigénétique et qu'est-ce que ça fait dans la vie. On a des conférences aussi qui touchent à la psychologie, aux différents biais cognitifs, par exemple, ou aux croyances en général. On a des conférences aussi, on a pu aborder certaines fake news, on a eu plusieurs conférences depuis un an sur les idéologies politiques, entre autres sur la droitisation, le populisme, la crise d'octobre 1970, par exemple. Puis aussi, quand on parle de l'idéologie, j'ai parlé un petit peu du mouvement woke tantôt. On a une conférence sur, ça s'appelait blasphémer, indigner, réprimer, le préjudice moral et la blessure intérieure comme source d'interdit. Donc, on touche à différents sujets comme ça. Il y a des conférences qui sont un peu plus générales, d'autres un peu plus spécifiques sur certains sujets. Et à un autre moment donné, on peut, comme j'ai dit, on peut toucher à certaines croyances. Fait qu'à un moment donné, on va avoir des conférences sur les médecines alternatives ou des choses du genre. Fait que c'est assez variable, assez varié, dépendamment des sujets, dépendamment de ce qui sort un peu dans l'actualité.
Les gens qui seraient intéressés à aller à vos conférences, on fait comment pour s'inscrire?
Ben, les conférences sont gratuites présentement, parce que c'est donné par Zoom, sont accessibles à tous. Ça fait que si les gens veulent s'inscrire, ils peuvent tout simplement nous contacter ou devenir membres de l'association. Les conférences sont aussi annoncées sur notre site Facebook. Fait que ça peut être une bonne façon de nous suivre. Fait que si vous devenez, faites un like sur notre site Facebook, vous allez voir les nouvelles sortir et vous allez savoir quelles conférences s'en viennent. L'autre chose aussi, elles sont annoncées sur notre site web, en page d'accueil.
Je sais que vous avez également une excellente revue, Le Québec sceptique. Je pense que c'est publié quoi, 3 fois par année, c'est ça?
3 fois par année, oui.
Pour les gens qui seraient intéressés, bon, je sais qu'on peut se la procurer via le site web, en payant par PayPal. Pour donner une idée aux gens, quel genre d'articles on peut retrouver dans le Québec sceptique?
On a des articles divers, fait qu'on, dépendamment des numéros, on a des résumés de nos conférences dans certains cas. On a des articles que certaines personnes nous envoient sur des sujets bien spécifiques. Mais chaque numéro aussi porte sur un thème particulier. Pour vous donner une petite idée, par exemple, on avait dans le numéro 103 l'année passée, université, le débat est-il encore possible? Après ça, le numéro 104, c'était la crainte des produits chimiques et des ondes électromagnétiques. C'était vraiment dans la pure zététique, si on veut, c'était des articles vraiment fondés sur la science, alors qu'il arrive des fois qu'on a des articles un peu moins, dans lesquels on a un peu plus des opinions qui sont exprimées. Après ça, on a eu un numéro sur le racisme ou ségrégation socio-économique et culturelle, dans lequel on essaye de peut-être faire une différence entre ce qui est vraiment le racisme et une ségrégation socio-économique. On a eu un numéro aussi dont le thème était philosophie et scepticisme. Et le dernier numéro, c'est un numéro qui a un peu plus touché à mettre en place, c'est sur la dysphorie du genre et les transidentités. C'est un sujet assez délicat.
Oui, un sujet où il y a des positions très tranchées.
Très tranchées de part et d'autre. Fait que d'un côté, on a des gens qui défendent un peu l'idée que c'est surtout au niveau des jeunes, par exemple. L'idée que les jeunes savent ce qu'ils veulent avoir et quand ils décident de s'identifier comme trans, ben on doit absolument agir rapidement pour les accueillir comme des trans. Sinon, ils risquent de se suicider. Et d'un autre côté, ben il y a des gens qui remettent en question ces études-là sur les taux de suicide des jeunes, qui sont probablement différents aujourd'hui de ce qu'il y avait peut-être il y a 20 ans. Ils montrent certaines critiques, si tu veux, de personnes qui pensent que une mode à ce niveau-là, c'est que plus on parle des trans, plus il y a des jeunes qui vont vouloir s'identifier comme trans et qui risquent d'embarquer dans une boucle, qui risquent d'être influencés et peut-être même de subir des opérations, alors que s'il n'y avait pas eu cette influence-là, ben il serait peut-être resté un peu cisgenre, comme on dit, et il aurait peut-être été aussi heureux cisgenre sans avoir à subir des opérations qu'ils pourraient subir parce qu'ils sont influencés par d'autres personnes. Maintenant, il y a beaucoup d'opinions là-dedans, il y a beaucoup d'obstinations qui se font de part et d'autre, et quand on regarde ce qui est publié, ben on s'aperçoit qu'il y a des gros biais dans ce qui est publié, même dans les revues scientifiques. Les échantillons ou les personnes qui sont prises, qui sont suivies, sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble des personnes trans. L'autre chose aussi, c'est que des fois, ils vont suivre un groupe de personnes trans qui ont vraiment fait le transition, et ils vont laisser de côté toutes les jeunes qui se disent non-binaires et qui varient d'un genre à l'autre au gré de leur fantaisie, si on veut. Les autres, ils sortent des études puis on les suit pas. Je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup de choses qui vont sortir là-dessus. Et j'espère qu'on va avoir des meilleures études que ce qu'on a jusqu'à présent, là.
Alors, merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de nous parler. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient en savoir davantage sur les sceptiques du Québec, vous pouvez aller voir leur page Facebook, évidemment, et aussi leur site web, qui est sceptique.qc.ca. Alors, merci beaucoup. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés à en savoir plus sur l'Association humaniste du Québec, vous pouvez visiter notre site web, qui est ASSOHUM.org, ASSOHUM.org, ou encore sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel info@commercial.asohum.org. Merci, et nous vous donnons rendez-vous au prochain balado humaniste.